l'association Amades d'avoir organisé ce colloque autour de cette belle question, ce que guérir veut dire. Alors, moi je vais orienter cette communication autour d'une question, en me demandant si la médecine va changer de paradigme. En tout cas, c'est ce qui est annoncé par certaines formes de médecine qu'on va appeler, et sur lesquelles je vais revenir un peu, la médecine personnalisée, où on passerait de guérir à prévenir. Alors, vous connaissez tous l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, ça fonctionne pour la santé, ça fonctionne aussi dans un tas d'autres domaines de la vie sociale. Et ça fait vraiment l'unanimité pour tout le monde qui ne pourrait pas penser qu'il vaut mieux ne pas être malade que de guérir d'une maladie. Et surtout pas celles qui ont été, les personnes qui ont été malades et qui ont été lourdement malades, tant elles savent que même guérir, ça n'est jamais revenir à l'état antérieur. Et donc, ça laisse en général dans un autre état, en tout cas, que celui d'avant. Et c'est Ganguilhem qui l'a bien expliqué. Alors, pour autant, est-ce que prévenir, ça signifie rester à cet état antérieur? En tout cas, dans le sens qui est entendu ici. Ou est-ce que prévenir la maladie ne signifierait pas modifier cet état antérieur pour combattre plutôt encore cette maladie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est la question que je vous propose de poser, tant il y a d'ambiguïté entre ces deux notions, de prévenir et de guérir. Alors, cette question, elle m'est apparue de façon particulièrement cruciale en travaillant depuis quelques années avec des chercheurs et des médecins autour de la question de la médecine personnalisée, en particulier dans le cadre d'un département hospitalier universitaire qui s'intitule Médecine personnalisée des maladies chroniques. Si je dis ça, c'est parce que j'étais très étonnée d'entendre dire qu'il va falloir que la médecine se révolutionne complètement, y compris dans les cabinets, et que c'était fini de guérir, que la médecine allait devenir une médecine de la prévention. Et comme je n'avais pas vraiment l'impression, en tout cas, qu'il parlait de la même prévention que celle dont, que j'avais un peu dans l'idée, je me suis dit que ça valait quand même le coup d'aller voir un peu de quoi il s'agissait et de quelle prévention on parlait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, justement? Et puis, les pouvoirs publics s'intéressent énormément à la médecine personnalisée, et donc ils ont commandé en 2014 il y a eu un rapport parlementaire qui a été fait sur les enjeux de la médecine personnalisée. Et je cite une phrase que je n'ai pas compris sur le moment. Donc, la médecine personnalisée implique un changement de paradigme dans l'approche du traitement et de la maladie, qui entraîne des bouleversements socio-économiques importants dans le secteur de la santé et exige de garantir l'égalité d'accès aux soins et la protection des citoyens. Là, on pourrait s'étonner qu'une médecine de prévention devienne un danger pour le citoyen, qu'il fasse donc le protéger quelque part de cette médecine de prévention et que ça mette en cause des principes de justice et d'égalité. Je trouvais que ça ne collait pas tout à fait bien. Alors, il y aurait beaucoup à dire, effectivement, sur la médecine personnalisée et je pense que là, on pourrait presque y consacrer un colloque. Et ce que je voudrais ici, c'est justement juste interroger cette annonce du changement de paradigme, donc de passer du curatif au préventif, pour se dire qu'au fond, c'est pas parce qu'on nous l'annonce qu'il faut y croire immédiatement, et d'autant plus que mon hypothèse, elle est plutôt qu'au contraire, on organise le prédictif sur le modèle du curatif et qu'on pousse encore plus loin ce paradigme médical de la guérison. Alors, je vais tout d'abord essayer de vous expliquer un peu de quoi on parle quand on parle de guérison, en tout cas de quoi moi je parle quand j'en parle, parce que je pense que ce n'est pas un concept si simple que ça, et donc il faut définir un petit peu de quoi il s'agit, de quoi on parle aussi quand on parle de la médecine 4P, et puis, qu'est-ce qui change, justement, dans cette médecine 4P, du côté de la guérison, et plutôt, qu'est-ce qui ne change pas, et qu'est-ce qui change? Parce qu'il y a quand même des choses qui changent. Alors, de quoi je vous parle quand je vous parle de guérison? C'est très compliqué parce que le verbe guérir, il contient une ambiguïté et qui fait que ça se rapporte à la fois à celui qui guérit, enfin, au soignant, on va dire au médecin, pour simplifier les choses, et au malade. Les deux guérissent, mais pas de la même façon et pas avec les mêmes conséquences. Et c'est une ambiguïté sémantique qui a de lourdes conséquences dans la mesure où souvent on aurait tendance à penser que si on parle de guérison, on parle de la même chose. Et que c'est la même, la guérison du patient et la guérison du médecin, sous prétexte, et c'est vrai quand même, que les deux la souhaitent. Mais ni l'un ni l'autre ne la pensent de la même façon, ne la vivent de la même façon. Les enjeux ne sont pas les mêmes, c'est quand même une condition de vie, de survie. Pour les uns, c'est un objet du travail, pour les autres. Et donc, ce dont je vais parler plus précisément ici, ça va être surtout de la guérison comme objet du travail médical. Cet objet du travail médical, il est important de le penser non pas comme un état, et encore moins comme un résultat, mais comme un sens qui peut être donné à l'activité. Un sens qui est à la fois donc une signification et une direction. Donc guérir, ce serait ce qui fait agir le médecin. C'est un processus qui démarre donc dès l'identification de la maladie et la mise en œuvre du traitement. C'est un processus qui a son propre rythme. Par exemple, si on prend l'exemple, puisqu'on était sur le cancer tout à l'heure, d'une femme qui a un cancer du sein qui lui est détecté en plus par une mammographie de contrôle, donc qui n'avait pas particulièrement de souffrance et de signes autour de ça, eh bien en fait la guérison, le médecin va commencer à la guérir à partir du moment où il va mettre en place un traitement. Elle, à partir de ce moment-là, elle rentre dans la maladie, elle ne rentre pas dans la guérison. Et c'est souvent quand les médecins ont arrêté d'agir, donc d'agir pour guérir, qu'alors les patients, les malades, comment les appeler, sont censés rentrer dans un processus de guérison. Donc la temporalité du guérir du médecin, c'est pas celle du guérir du malade. C'est pas les mêmes espaces non plus. Et c'est aussi important de penser ça parce que justement la guérison n'est pas un retour à l'état antérieur, c'est-à-dire qu'on n'est pas en guérison comme on est en bonne santé. On ne guérit pas tout court, ça n'est pas un état générique, on a guéri de quelque chose. Et le médecin ne donne pas, dans son action de guérison, il ne vise pas à rendre les personnes bien portantes, il vise à les guérir d'un mal qui est identifié. Et ce n'est pas la même chose. Je pense que ça aussi, c'est important de le comprendre. Et donc il faut qu'il détecte ce mal, il faut qu'il ait les armes pour la combattre. C'est pas un hasard, et par exemple, si certains d'entre vous traînent leur guette du côté des hôpitaux, ils ont peut-être entendu cette expression qui ressemble à une boîte de carabin, il est mort guéri. C'est pas qu'une blague, c'est-à-dire je pense qu'effectivement, du point de vue de l'action médicale, on peut mourir guéri. Donc, comme quoi, guérir, c'est pas forcément être en bonne santé. Voilà, donc, c'est dans ce sens-là, moi, que je vais vous parler de guérison. Et c'est important d'y penser parce que ça veut dire aussi que la guérison, du point de vue du médecin, elle est envisageable que si le patient le laisse agir. Ça aussi, c'est un point qui est assez important. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier de ce que représente la médecine personnalisée ou la médecine 4P. Je vais être très rapide dessus, mais je pense qu'il faut quand même un petit peu rappeler de quoi il s'agit. Alors, c'est globalement ce qui est annoncé aujourd'hui comme la médecine de demain. Ça hante les laboratoires de recherche médicale et les hôpitaux. On le voit aussi bien dans les politiques de santé publique, dans les discours de Marisol Touraine, mais aussi dans les appels d'offres de recherche, c'est extrêmement présent. Les 4 P en question, c'est prédictive, préventive, personnalisée et participative. Alors, prédictive, je vais très vite, hein, je suis désolée, mais le principe, il est évidemment, on va prédire les maladies à l'aide de données biologiques, génétiques, bien entendu, mais aussi environnementales, alors avec un concept de la notion d'environnement qui peut être excessivement complexe, c'est-à-dire qu'on n'est pas, ça peut être à la fois des comportements, des pratiques, voilà. Et en constituant d'immenses banques de données, on peut donc, l'idée c'est de prédire le risque pour un individu de développer telle ou telle maladie. Ceci dit, donc, en fait, non seulement on prédit les risques pour des individus, mais on rentre tellement de données qu'on constitue des petits groupes à risque de plus en plus petits et de plus en plus importants. Ça me fait penser à ce que vous disiez tout à l'heure. Mais en tout cas, la notion de risque devient, et comme on dit, on va faire une médecine de précision. Ce sera un peu une evidence-based médecine, mais une precision-based médecine. Alors, une fois qu'on a prédit, donc, il faut prévenir. Alors, le terme, le verbe prévenir, lui aussi, il est ambigu. Il a trois significations différentes. La première, c'est précéder, devancer. Donc, en fait, si on prévient la maladie, on va agir avant la maladie. La seconde, c'est informer, mettre au courant. Alors, évidemment, une fois qu'on a prédit la maladie, on va informer le patient. Ben, je vous préviens, vous avez 30% de risque de développer un cancer ou d'avoir une mort subite. Enfin, voilà. Donc, on le prévient. C'est une notion importante de cette. C'est peut-être de la prévenance plus que de la prévention. Et le troisième terme, c'est préparer, disposer moralement contre quelqu'un, prévenir contre le cancer, c'est-à-dire attention, le cancer c'est mauvais, il faudrait peut-être prévenir les immunes contre le diabète, pour leur dire attention, le diabète c'est mauvais, c'est-à-dire ça aussi c'est important dans la notion de prévention. On ne sait pas vraiment dans quel sens. La médecine café entend le sens quand elle parle de prévenir, hein, c'est peut-être beaucoup en avance, puisqu'elle se dit en avance. Alors, personnalisé, on comprend bien qu'une fois que le traitement, enfin, une fois qu'on aura prédit la maladie, qu'on aura prévenu les patients, il va falloir que les patients se jouent au jeu de pouvoir donner tous les éléments qui permettent de les identifier. Alors là, on ne parle pas tellement des éléments qui les concernent eux, mais d'éléments plutôt d'ordre physiologiques ou génétiques et qui vont permettre de trouver la bonne cible, enfin plutôt le bon traitement pour les guérir. Donc on a dans cet aspect de personnaliser un peu une usurpation, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas tellement de créer des traitements qui soient totalement adaptés à chaque personne, il s'agit de faire des groupes d'individus de plus en plus petits et qui démultiplie aussi les possibilités de traitement. Participative, eh bien évidemment, il faut que le patient participe, c'est-à-dire que si on veut aussi prévenir le risque, il faut qu'il change ses comportements, par exemple, il faut qu'il comprenne, qu'il faut qu'il vienne dans des consultations pour demander quels sont ses risques d'avoir une maladie, et pas seulement en attendant qu'il a la maladie, donc ça aussi, il faut, donc il y a tout un travail dans l'idée de la médecine 4P qui est tout le travail autour des patients qui doivent modifier la façon dont ils pensent et dont ils conçoivent leur maladie. Donc c'est un petit peu vite, rapidement résumé. S'il y a peut-être une égérie de la médecine personnalisée, ce serait peut-être Angelina Jolie avec sa double mammectomie en fait où voilà, on lui a prédit qu'elle avait de fortes chances d'avoir un cancer du sein et elle s'est fait enlever ces deux cancers. On ne dit pas si il est possible d'avoir deux.
C'est
deux seins, c'est vrai, mais pas ces deux cancers. Justement, est-ce qu'il est plus dangereux d'avoir des prothèses ou des seins réellement? On ne sait pas. Mais enfin, en tout cas, elle est très souvent citée d'ailleurs par les porteurs de l'idée de la médecine personnalisée. Alors, est-ce que cette prévention-là, elle est si révolutionnaire qu'elle apparaît? Et donc, est-ce qu'elle est vraiment susceptible de bouleverser ce paradigme curatif? Alors, je vous propose de discuter d'abord l'idée. Du point de vue de l'idée, on passe de la maladie au risque de maladie. Ça, c'est important. Ce n'est pas du tout la même chose. Et est-ce que c'est vraiment révolutionnaire de passer de la maladie au risque de maladie? En fait, à mon avis, l'action préventive qui est proposée dans ce domaine-là, elle est très proche d'une action curative. D'abord, elle a besoin d'une cible. En l'occurrence, il ne s'agit pas de conserver un état de santé correct et des conditions de vie correctes pour les individus. Il s'agit bien de prévenir, de corriger tel risque de survenue d'une maladie. Donc en fait, on cible, et on cible toujours cette action à partir de la survenue d'une maladie donnée. Ce qui apparaît aussi, et ça je trouve que c'est extrêmement important, on le voit avec l'exemple que je donnais tout à l'heure sur le dépistage systématique du cancer du sein, c'est-à-dire que le traitement se déconnecte de plus en plus de l'expérience du malade. On n'a plus besoin de se sentir malade pour devenir objet de traitement. Et de moins en moins. Et là, d'une certaine façon, on pourrait dire que dans le fantasme de la médecine personnalisée, il n'y aurait plus de malades, ce serait encore mieux, quoi. C'est-à-dire, il suffirait juste de... on peut prévenir à partir des données biologiques et génétiques un risque de maladie. On va donc attaquer cette maladie avant même qu'elle apparaisse. On va transformer le corps, parce qu'en fait, en général, c'est ça. On transforme le corps, soit par des médicaments, soit par des opérations, soit par des outils, des dispositifs divers, pour éviter que la maladie n'apparaisse. Mais pendant ce temps-là, le patient lui-même, il ne fait plus d'expérience de la maladie, il ne fait plus que l'expérience du traitement. Et pour autant, il peut se sentir, lui, du coup, plus malade après qu'on l'ait traité qu'avant qu'on l'ait traité. Et donc, il y a une sorte de disjonction complète entre ce qui est de l'expérience du malade et de la façon dont on pense la maladie. Dont on pense la maladie dans le cadre, dans ce cadre préventif. Ça, c'est sur l'idée elle-même. Donc, je vais passer assez rapidement, mais concrètement, c'est aussi une médecine qui existe déjà. C'est-à-dire qu'on dit toujours que ça va révolutionner, mais il y a des branches de la médecine qui fonctionnent déjà complètement comme ça. Moi, j'ai travaillé un peu sur la gynécologie obstétrique, et les gynécologues obstétriciens, enfin c'est une spécialité qui s'est constituée sur l'ensemble des risques maternaux fétaux qui peuvent subvenir à l'occasion d'une naissance et qui s'est véritablement construite de cette façon-là. C'est à partir de là qu'on enseigne la gynécologie obstétrique, c'est à partir de là que les gynécologies obstétriciens travaillent et interviennent. On n'est pas du tout, comme il s'agit de la naissance, il s'agit d'un événement qui n'est pas en soi pathologique et pas morbide, même tout au contraire. Mais toute la spécialité de la gynéco-obstétrique, c'est organisée autour de la prise en charge du risque, et même le vocabulaire est un vocabulaire qui s'est organisé autour de ça. C'est-à-dire, c'est souvent une réflexion qui est rapporté dans les salles de naissance, c'est des gynéco-obstétriciens qui disent finalement une grossesse est normale, ou une grossesse justement est sans risque. C'est pour ça aussi que le concept même de grossesse sans risque a disparu du vocabulaire. On a toujours des risques à bas risque, des grossesses à bas risque ou à haut risque, mais une grossesse sans risque, c'est une grossesse où tout s'est bien terminé. Ce qui est assez curieux, c'est-à-dire qu'on prend le risque comme l'avènement. Ça n'est plus un aléa. Et ça, c'est important, l'idée qu'on va traiter un risque comme si ce n'était pas un aléa, comme si c'était déjà là. Parce que si on pensait qu'un risque, c'est toujours un aléa, on ne pourrait pas considérer qu'il y a une quelconque certitude à la fin de la grossesse. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est important de penser que cette pensée de traiter le risque, c'est aussi de ne plus le considérer comme un risque. Faire comme s'il était déjà là. C'est exactement, on parlait de la mammectomie dans d'Angelina Jolie, c'est-à-dire qu'on traite, cette femme comme si elle avait son cancer. On ne traite pas le risque de cancer. Ce n'est pas du tout la même chose. On lui applique un traitement de cancer. Et puis aussi, cette façon de fonctionner, on a pu constater que ça nécessitait effectivement beaucoup d'adhésion de la part des femmes, parce que les femmes, la médicalisation de la grossesse fait que la femme, elle passe par tout un tas d'états successifs de risques qu'on leur énonce. L'adhésion la plus complète qu'on pourrait espérer, entre guillemets, ou imaginer d'une femme, fait qu'en même temps, elle n'est pas... elle n'est pas très autonome. Voilà. Un dernier point, donc je vais faire qu'une minute sur ce dernier point. C'est dommage parce que je pense que ce qui change, c'est que peut-être on est passé de la maladie au risque de maladie. Et en même temps, ce risque de maladie, il est défini essentiellement à partir du traitement. Et on voit bien que la maladie, elle devient un petit peu autre chose. C'est-à-dire, il y avait le cancer, par exemple, il y a le cancer du poumon, du sein. Après, il y a le type de cancer, type de cellule et tout ça. Après, il y a le stade du cancer. Et maintenant, il y a sa sensibilité à certains types de traitements. Et ça refait une catégorie de cancer en fonction du traitement qui peut être proposé. Et c'est peut-être pas un hasard que cette médecine capée a été inventée par l'industrie pharmaceutique. Parce que c'est quand même une des façons de, et ça je ne veux pas m'étendre là-dessus, d'échapper au générique et de développer des nouveaux types de médicaments en l'absence de véritable révolution médicale. Bon, je conclue donc. Je conclue pour dire que ma réponse à la question « La médecine va-t-elle changer de paradigme ?» Donc, ça pourrait être un peu une réponse de Normande, oui et non et tout ça, c'est plus une réponse de Bretonne, parce que c'est non mais, quoi. Non, non, je ne pense pas qu'on passe du paradigme de la guérison au paradigme de la prévention. Je pense qu'au contraire, on pousse encore plus loin le modèle curatif et que, justement, on invente peut-être quelque chose qui pourrait être appelé comme une guérison préventive, c'est-à-dire on fait de la guérison encore plus tôt, plutôt que de faire de la prévention. Et juste je termine, puisque j'avais commencé par l'adage « mieux vaut prévenir que guérir », je termine par un proverbe cette fois chinois, on peut guérir des maladies mais non point le destin. Je vous remercie.
Moi j'avais une petite question plus d'ordre conceptuel par rapport à cette médecine des 4P. Je me souviens avoir lu à l'époque sur cette médecine, c'est qu'un des 4P en question renvoie à la médecine préemptive qui dans vos 4P devient préventive. Alors ma question c'était, est-ce qu'il y a différentes écoles de pensée aujourd'hui qui font qu'on a volontairement abandonné la notion de préemption et pourquoi? Ou est-ce que c'est un choix que vous avez fait vous-même, puisque je crois me souvenir que c'était Zerouni qui était l'ancien chef de la NIH qui avait pensé le premier cette médecine des 4P?
Oui, mais alors en fait, là-dessus je ne suis pas très au point, mais j'ai constaté que aux États-Unis, enfin dans le discours justement américain, c'est préemptif. Et ça a été traduit en français, on en parle comme préventive. Je crois que préemptive, ça ferait très peur. Parce qu'en fait, dans l'idée du. Justement, l'idée de la préemption, c'est bien d'enlever quelque chose. Et donc, je ne sais pas comment est-ce que ça a été traduit. Je sais qu'en tout cas, la traduction française, c'est plutôt préventif. Moi, je crois qu'il y a, je crois qu'il y a quelque chose qui serait difficile peut-être à faire passer dans l'idée du préemptif. Et en tout cas, qui est probablement plus général dans le préventif aussi. Je ne sais pas. J'ai constaté ça. C'est pas moi qui ai fait la traduction, en fait.
Donc, vous ne savez pas si ce sont deux écoles de pensée.
Non, ce n'est pas deux écoles de pensée.
On trouve aussi en français, hein, préventif,
oui,
dans certains.
Oui, oui, peut-être. Mais je ne pense pas que ce soit deux écoles de pensée, non. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas du tout perçu comme ça. Parce que, je sais plus, justement, j'avais lu un texte où ils expliquaient que c'était plutôt une traduction qui convenait mieux. Mais je ne l'ai pas senti, justement, comme deux écoles de pensée. Mais je pense que ce n'est pas un hasard, effectivement.
Bonjour, je vais me permettre d'être en désaccord sur deux points, enfin en tout cas de discuter deux points. Le premier, c'est de faire une catégorie homogène entre les quatre P. Parce que je crois qu'à un moment donné, en effet, c'est Elias Zeroni qui a sorti ça vers la fin des années 90, mais je pense qu'il avait, il y avait une volonté de définir des choses qui n'étaient justement pas très liées ensemble, mais qui permettaient d'avoir des, de couvrir l'ensemble du champ médical. Et en particulier, du coup, je ne suis pas. Alors là, par contre, je ne vais être globalement pas d'accord avec votre choix d'Angelina Jolie comme modèle, tout simplement parce que Angelina Jolie, c'est avant la médecine personnalisée. L'essentiel de la médecine personnalisée, c'est l'analyse de la génétique somatique de la tumeur, c'est-à-dire de commencer à personnaliser les traitements à partir de la génétique de la tumeur qui n'est pas la génétique constitutionnelle. Or, Angelina Jolie, c'est une mutation BRCA1 ou 2, découverte dans les années 90, bien avant l'invention de ce qu'on va appeler un terme discutable de médecine personnalisée, on emploie maintenant le terme de médecine de précision stratifiée. Mais elle, c'est vraiment la question pré-médecine personnalisée, me semble-t-il, Angelina Jolie, c'est-à-dire que la décision qu'elle a faite, on pouvait la prendre dans les années 90. La spécificité du traitement, elle n'est pas du tout liée à la médecine personnalisée, dont les médicaments qu'on connaît, comme l'herceptine, etc., ciblent désormais des mutations de la génétique somatique de la tumeur, et c'est ça qui fait la médecine personnalisée aujourd'hui, et pas du tout de la génétique constitutionnelle à la maladie de Lynch ou à la maladie.
Non, la médecine 4P, le personnalisé, le P de personnalisé, effectivement. Concerne essentiellement le traitement.
Mais la génétique somatique, si c'est la définition de l'INSERM, c'est justement la génétique somatique de la tumeur.
Oui,
c'est la définition de l'INSERM.
Oui, alors peut-être en cancérologie, mais il y a de la médecine personnalisée dans d'autres domaines que la cancérologie, et en particulier médecine personnalisée. Le P, c'est pas seulement génétique, ça peut être aussi sur des marqueurs tumoraux, c'est sur des domaines qui sont beaucoup plus. Des marqueurs biologiques, je veux dire, qui peuvent être enfin, beaucoup plus larges que ça.
Ça, c'est la médecine prédictive, mais c'est plus de la médecine personnalisée, ça finit sur un cholestérol.
La médecine 4P, il y a les 4P, il y a le prédictif dedans. Je ne comprends pas le problème.
Parce que le prédictif, enfin, la première prédiction, c'était l'épidémiologie. Si vous goinfrez de sucre, il y a de fortes chances. Ça, c'était de la médecine prédictive, et on trouve l'expression à peu près dès le 19e siècle.
La spécificité de la médecine prédictive, elle va quand même plus loin que ça.
Non, mais je dis qu'elle naît de l'épidémiologie, elle va jusqu'à la génomique. Mais quand on l'articule avec la médecine personnalisée, c'est sur la génétique somatique. Enfin, aujourd'hui, en médecine.
Pas seulement. Moi, je vois pas la
Juste un petit commentaire, puis ensuite une question. Au niveau des financements, hein, on sait qu'il y a des milliards de dollars investis actuellement, autant par le public, mais beaucoup par le privé, effectivement, dans cette fameuse prédiction. Depuis quelques années, plusieurs entreprises privées qui ont fermé leurs portes parce que justement ça ne donnait pas beaucoup de résultats. On ne voyait pas la possibilité de rentabiliser les centaines de millions de dollars qui étaient investis dans cette identification-là de marqueurs comme tel. Ça qui n'a pas empêché l'État quand même de continuer à financer en coaction finalement avec l'entreprise privée plusieurs de recherches. Mais ce qui est intéressant, peut-être, de voir aussi un peu, dans le cas du Québec, il y a une entreprise qui s'appelle Génome Québec, qui avait, je pense, un objectif extrêmement intéressant. Moi, je dis qu'il y avait, je n'en parle pas tout à fait au passé maintenant, mais l'idée était de coupler une banque de données génétiques de l'ensemble de la population avec des marqueurs de comportement à risque, d'habitude de vie à risque et de conditions à risque. Où là, il y avait vraiment un enjeu de santé extrêmement génial, où on pouvait voir le poids relatif de marqueurs génétiques et de comportements à risque sur une longue période, sur plusieurs années avec quelqu'un. Ce qui est intéressant, je ne sais pas mentionner, c'est que l'État a cessé cette année de financer ce projet-là et a continué à mettre tous ses œufs, ses centaines de millions de dollars en appui aux entreprises privées pour continuer à chercher, elles, simplement au niveau de la recherche, simplement au niveau génétique. Enfin, juste pour dire qu'il y a des enjeux politiques énormes dans tout ça. Et bon, la collusion entre l'entreprise privée, tout ça, c'est encore là. Mais là, je vais en venir à la question, c'est que si on développe de plus en plus justement la recherche de ces marqueurs-là, ça veut dire que plus personne n'est en santé, parce qu'on est tous à risque de développer quelque chose, un risque à 5%, 20% ou à 30%. Donc la santé n'existe plus, et donc la guérison non plus, à la limite, à l'inverse. Donc les deux catégories, est-ce qu'il y a un avenir pour les deux catégories de guérison et même de santé dans cette nouvelle médecine de quatre pays?
Alors ce serait peut-être vrai, tout dépend de qu'est-ce qu'on appelle guérison. Vous voyez, si on parle de guérir au sens de l'action médicale, on pourrait dire qu'on est tous en train de, on est tous susceptibles d'être l'objet d'une action médicale, c'est-à-dire au contraire d'un redressement de ce qu'on est nous-mêmes. Donc au fond, c'est pas guérir en tant qu'état dont je parle, c'est en tant que processus. C'est à partir de ce qui guide une action. Donc, de ce point de vue-là, on est toujours susceptible d'être redressé, si je pourrais dire, d'être traité, parce qu'on pourrait remplacer par traité. On peut être tous l'objet d'un traitement. Voilà, donc je pourrais pas dire que la guérison disparaît, au contraire. Elle est omniprésente, mais en tant que processus, pas en tant qu'état, pas si on pense que la guérison c'est un état de bien-portance. Vous voyez ce que je veux dire?
Je voulais souligner aussi qu'il y a plusieurs maintenant des maladies qui sont dépistées pour un certain seuil de probabilité pour lequel il n'existe absolument aucun traitement.
Oui, voilà, ça c'est encore autre chose. Ça détermine d'ailleurs beaucoup l'action médicale s'il n'y a pas de traitement. Ça c'est un problème.
Juste une petite remarque. Vous n'utilisez pas du tout le concept de biomédicalisation qui me semble...
Bien sûr, on est dedans. Je pense.
C'est ça, c'est exactement les critères définis par...
Oui.
Quelqu'un veut prendre la parole? Non, eh bien ça va nous permettre de finir quasiment exactement à l'heure. Donc je remercie nos trois intervenants pour ces riches discussions autour des enjeux politiques et de la gouvernance de la guérison. Et je vous demande de les applaudir une dernière fois.